Germain, vous écrivez et vous dites « On écrit dans une totale solitude et jamais pour un public, mais jamais pour soi seul non plus ». Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, comment vous écrivez ?
Quand je dis « on n'écrit pas pour un public », c'est-à-dire on ne pense pas qu'on va être obligatoirement lu, et un public c'est quelque chose de totalement anonyme. Il est quand même assez rare que des écrivains disent « voilà, j'écris pour tel ou tel public », ou alors ils fabriquent des livres, avec talent peut-être, mais ils fabriquent des livres, ils ne sont pas vraiment habités, je pense, par la profonde nécessité de l'écriture, au sens où quelqu'un comme Rilke, par exemple, en parlait. Et en même temps, ce n'est pas que pour soi seul, parce que soi seul, ça ne veut rien dire. On sait très bien qu'on est constitué par les autres. Non seulement, bien sûr, les parents, la fratrie, les amis, mais également, au fur et à mesure, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a reçu. On n'écrirait pas, Lévinas le disait très bien, si d'autres n'avaient pas écrit et parlé en amont de nous. En amont et également autour de nous. L'écriture, déjà le langage, c'est pas naturel, on n'est pas comme les oiseaux. Ou un oiseau, bon, il chantera peut-être pas très bien s'il est élevé au milieu d'une autre race d'oiseaux, mais il chantera, c'est programmé. Un lion, il va pas se mettre, même s'il est élevé, je sais pas, parmi des zèbres, ce qui semblerait aberrant, mais bon, un animal est programmé. L'humain, il n'est pas tellement programmé. Et on sait très bien ce que donne un enfant sauvage. Il ne sait même pas se mettre debout, il n'apprendra pas à marcher, il n'apprendra pas à parler, il émettra des sons. Et c'est le propre de l'humain d'être dans cette extrême dépendance, d'avoir cette absence de programmation et de tout recevoir des autres. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Ça renvoie au thème de la dette, qui serait un très grand thème à développer, dans un bon sens du terme, quand j'emploie le terme de dette, c'est-à-dire qu'on est toujours, en fait, dans une gratitude. Il faut vivre la dette dans le sens de la gratitude. On reçoit tout. Si on va à l'extrême, la foi aussi, tout est reçu, tout nous est donné. La merveille, c'est d'avoir à faire quelque chose avec ce qui nous est donné. Donc quand on écrit, la langue déjà, elle-même, on l'a reçue. Et la langue, elle a une mémoire immense. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'étymologie des mots. Il y a des strates, c'est profond, il y a plein de sens déposés dans la langue. Et puis, il y a, le langage. Et la langue plus précise que vont nous apprendre nos parents, si les parents ne nous apprennent pas, ou des adultes, à parler le béaba, et puis l'école, et puis voilà, on se forme auprès des autres, auprès de ceux qui nous ont précédés, des morts, beaucoup de morts, avec l'histoire de la littérature, et puis les vivants, la famille, l'école, etc. Et c'est tout ça qui se dépose en nous. Et le jour où on se met à écrire, c'est comme une énorme polyphonie qui est en nous, et on essaye à travers on va puiser dans ce fond commun, en fait, dans ce quelque chose qui nous dépasse, et on va puiser dedans, et puis comme un sculpteur un peu qui a un bloc de marbre énorme, eh ben il va essayer de sculpter, et il va sculpter une œuvre à partir de ce matériau. C'est pareil avec la langue.
On peut dire que c'est un réveil.
Oui, c'est un mélange de confrontation, de réveil, oui, d'éveiller des voix qui ne sont pas vraiment tues. On le sent bien avec les gens, quand on a aimé des gens et qui disparaissent. Les voix se taisent au sens physique, mais elles ne se taisent pas au sens affectif, spirituel. Là encore, j'ai envie d'aller à l'extrême. Quand on voit les paroles déposées dans les évangiles, on doit les faire revivre à chaque fois, on le sait. Et ça, c'est valable pour toutes les religions, je pense. Je suis attachée à la religion donnée par les évangiles, Et la merveille de ça, c'est qu'il y a dépôt de paroles, transcrites, retranscrites, traduites, avec beaucoup de pertes ou de transformations peut-être autour. Mais il y a une telle puissance dedans, il y a une telle beauté, que chacun qui va entendre ces paroles, qui va les recevoir, eh ben, il va essayer de leur redonner une forme de vie dans sa propre vie. Ça va durer le temps de notre vie, et c'est la merveille de ceux qu'on appelle les saints. Pas obligatoirement ceux estampillés comme tels par l'Église, mais à mes yeux, par exemple, quelqu'un comme Maurice Zindel ou tant d'autres ont une forme de sainteté dans leur capacité d'éclairer des textes. Quelqu'un comme Maurice Zindel, justement, est quelqu'un de profondément lumineux. Et quand il va se pencher sur des textes ou reprendre des paroles, parce qu'il les a vécues complètement, il leur donne à nouveau un sens, une vibration. S'il n'y avait pas sans arrêt des vivants, les uns après les autres, génération après génération, pour redonner des vibrations particulières à certains mots, Parce que tous les évangiles peuvent devenir aussi lettres mortes, et c'est ça qui est terrifiant. C'est de se dire que ça peut devenir lettres mortes, et d'ailleurs on le voit bien en Occident, pour beaucoup, beaucoup de nos contemporains, ça ne fait plus de sens. Et chaque fois que quelqu'un se lève, et un vivant qui va redonner justement vie à ces mots-là, quitte parfois à se tromper, quitte parfois à obscurcir certains passages, mais à en éblouir d'autres, ben on essaye de se frayer un chemin à travers tout ça.
La parole crée, Dieu crée à travers la parole, et quand je vous entends, on peut dire aussi que finalement, nous devenons, à travers cette parole reçue, co-créateurs.
Oui, parce que moi je me sens toujours sur le seuil, c'est pas pour minimiser quoi que ce soit, mais parfois on me dit « toi t'as la foi », etc. Et j'ai honte, j'ai l'impression d'une imposture. Je suis pas quelqu'un qui ose dire « oui, moi j'ai la foi ». Je suis émerveillée par ce qui est dit dans les évangiles. Je me dis toujours, un maître spirituel, homme, femme, est quelqu'un qui porte une grande capacité de délivrance. Mes connaissances sont très restreintes, mais il me semble, dans le peu que je connais, que s'il y a un message à porter dans l'humanité qui est parmi ceux qui apportent la plus grande délivrance, c'est le Christ. Je mentionne toujours ce passage extraordinaire de la femme adultère. Quand on pense à l'époque dans laquelle ça se passe, et c'était dans la loi dite de Moïse, et cette femme aurait dû être lapidée d'après la loi. Petite parenthèse, à chaque fois je me demande où est passé l'homme incriminé. Ça, on n'en parle pas. Ils sont tous prêts à la lapider, et qu'ils puissent oser dire et faire avec ce coup de génie, de dérober son regard au regard haineux des autres, parce qu'on sait ce qui passe par un regard. Le regard est langage. Autant le regard, le visage, peut être une merveille, une ouverture sur l'infini, autant aussi il peut être fermeture, violence extrême et appel au crime. Et on devine les visages presque de mort érotisés, de désir de mort contre cette femme qu'on imagine belle et désirable, et que le Christ dérobe son regard pour échapper à la violence. Et c'est ça, tendre la joue gauche, en fait, pour moi. C'est pas tendre bêtement, allez, tu m'as frappé. Non, c'est au contraire déjouer la violence, complètement déjouer la violence. Donc, il n'offre pas de prise à cette violence. Et il a cette phrase extraordinaire. Il renvoie chacun à sa responsabilité. Et là, ils sont un petit peu gênés, évidemment. Mais qu'ils puissent dire ça, en ce temps-là, en cette époque, avec ce système de valeurs, c'est extraordinaire. Et des choses, et toujours, il dit, quand il va sauver des gens d'une maladie, d'une infirmité, de démons qui les habitent, jamais il ne va dire « Allez, maintenant, je t'aliène à moi, viens, suis-moi. » Jamais. Il ne désigne que ses disciples, au nom d'un mystère qui nous échappe. Les autres, il leur dit à chaque fois « Va et ne pêche plus. » C'est-à-dire, il renvoie vraiment chacun à sa liberté. Et c'est cet aspect-là que je trouve absolument extraordinaire. Moi, ce que je trouve beau, c'est les gens qui viennent vous apporter une possibilité de liberté. Sinon, j'ai des doutes sur la qualité spirituelle de la personne.
Vous avez fait une thèse sur Emmanuel Lévinas, sur le visage.
J'étais intéressée par le thème du visage. C'est un peu bête de dire le thème du visage. Au début, je suis partie sur des fausses raisons, en un sens. Mais c'est bien, les fausses raisons. On part toujours sur des fausses raisons et puis on rencontre un chemin pourquoi. Je pensais partir, vous savez, dans ce discours plus des fins des années 70. Et puis en chemin, tout ça s'est échappé. J'ai lu, bien sûr, Lévinas. Il y avait également, en amont pour moi, le fait qu'il y avait les évangiles. Donc j'étais un peu à la croisée, vous voyez, de cette pensée quand même profondément ancrée, celle de Lévinas dans le judaïsme. Et moi, je passais aussi par le christianisme. Et je m'étais intéressée aussi à l'orthodoxie, à cause des icônes. Le catholicisme, alors là, et la peinture et la représentation, c'est aussi extraordinaire. On est fait aussi de tout ça. On revient à ce qu'on disait au début. Totale solitude. Et en fait, c'est une sorte de silence intérieur pour permettre à toutes ces voix intérieures de devenir un petit peu audibles. Donc, moi, je suis le fruit aussi d'une culture, donc en l'occurrence occidentale, catholique. Donc, l'importance des images est très, très marquante dans notre culture et dans notre sensibilité. Et à partir de tout ça, bah, j'ai essayé de débrouiller un petit peu, certainement avec pas mal de maladresse. Et puis, c'était effectivement cette merveille qu'est le visage. Mais parfois, les mains, un geste. J'ai une fois enfant, j'étais à la campagne et c'était dans le midi et c'était un vieux vigneron. Il était pieds nus. Et j'avais été émerveillée par les pieds de cet homme. Je ne pouvais pas m'expliquer pourquoi, mais les pieds aussi m'émerveillent. Les pieds, c'est quelque chose d'infiniment émouvant dans les pieds. Bon, on les cache, nos pieds, hein, mais parce que bon, on est chaussés en général. Mais quand on meurt, les pieds sont levés et il n'y a plus que cette plante des pieds. Il y a quelque chose de déchirant aussi. Les pieds, c'est comme les mains, c'est comme le visage. Mais je crois que le corps entier, quand on est dans une forme d'amour à l'égard des êtres. Il n'y a plus des parties du corps, tout est visage. Et dans l'amour entre deux êtres, amour qui va jusqu'à la sexualité, là je parle de l'amour amoureux, je pense que la merveille, c'est que le corps de l'autre est entièrement visage. Un corps, ça peut être entièrement visage, comme on le voit avec le corps des tout petits enfants. Le corps aussi, qu'on redécouvre autrement, des très très vieilles personnes qui deviennent dépendantes ou des grands malades en fin de vie, ce que doivent connaître les soignants et que l'on connaît quand on a la chance quand même d'accompagner ses parents dans la très très grande vieillesse et de les voir devenus dépendants à tous les niveaux. Il y a un jour où le rapport s'inverse et il arrive un jour où ce sont les enfants qui s'occupent des parents et qui parfois sont amenés à leur porter des soins au corps tels que ceux qui nous portaient quand on était tout petit. Donc ça aussi, ça fait partie de la beauté des échanges entre les humains.